Et 2026 va nous emmener, je le crois, je l'espère, des joies. Et j'y aspire aussi des libérations. Et certainement aussi, je l'espère, de belles surprises. Mais aussi, probablement, des incertitudes, des pressions et peut-être même des bouleversements. Et la question, c'est pas qu'est-ce qui va se passer. La question, c'est pas qu'est-ce que nous allons vivre. La question, c'est avec qui allons-nous marcher? Est-ce que tu veux poser cette question? Avec qui allons-nous marcher? Dieu ne nous promet pas forcément une année facile, mais nous donne la possibilité, de façon toute nouvelle, alléluia, d'être fidèles, alléluia. Il nous donne la possibilité d'apprendre en 2026 à être fidèles. Voilà le projet de Dieu pour toi dans cette année 2026. Il te donne la possibilité d'apprendre à être fidèle en terrain difficile, en terrain hostile. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amis. Il est clair que la Bible nous enseigne que l'on peut rester attaché et fidèle à Dieu. Les toutes bagailles qui est tête. Et puis les yokadou, ça pour faire. Parce que Montala, toute manière, c'est question, il est fait pour yokadou, ça pour faire. Et ce matin, dans le cadre de notre mois sans compromis avec Daniel, nous allons rentrer dans l'histoire d'un jeune homme et de ses trois amis qui sont projetés, je vais le dire, dans une nouvelle saison de leur vie. Ils sont en train d'entrer dans une nouvelle saison de leur vie qu'ils n'ont pas choisie. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne nous promet pas, je l'ai dit, forcément une année facile, mais ce matin, il veut nous révéler, à travers cette histoire, dans Daniel chapitre 1, quatre vérités essentielles. Quatre vérités essentielles pour marcher avec Dieu en 2026. Quoi qu'il arrive, est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, alors si tu veux, hein, tu n'as aucune obligation, mais tu dis à ton voisin, en 2026, avec Dieu, quoi qu'il arrive. Parce que Dieu règne, même sous la pression, je tiendrai et j'avancerai fidèlement avec Jésus. Amen. Est-ce que vous avez le texte sous les yeux, Daniel chapitre 1? La troisième année du règne, vous l'avez, hein? Vous avez cherché, déjà là, hein? Non. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéa, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, chef du personnel, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble. Des jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, qui veut dire « Dieu est mon juge », Anania, qui veut dire « L'Éternel fait grâce », Michaël, qui veut dire « qui est comme Dieu ». Azaria, l'Éternel aide. Le chef des eunuques, chef du personnel, leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à savoir que Bel ou Baal protège sa vie. À Anania, celui de Shadrach, c'est-à-dire inspiration du Dieu à coup. Et Michaël, celui de Meshach, qui veut dire « qui est comme à coup ». Et Azaria, celui de Abednego, qui veut dire serviteur du dieu Nebo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, le roi qui a fixé que vous devez manger les noirs, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, et à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michaël, d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, il y avait un meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant portait les mets et le vin qu'il leur était destiné et leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces jeunes gens de la science, de l'intelligence, de toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Le terme fixé par le roi pour qu'on leur en menant, les chefs des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretra avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets que réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient de tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Seigneur, éclaire-nous par ta parole de façon toute fraîche et toute nouvelle aujourd'hui. Illumine les yeux de nos cœurs et que nous puissions vivre comme tu le veux, à ton image, dans le nom de Jésus. Amen. Le livre de Daniel commence par une défaite. Bataille chaud. Jérusalem est tombée, le roi est vaincu, et ils ont même pris toute vase, tout ustensile, templant, ils ont porté Babylone. Tout crabe là, mort en Babylone. Plus d'espoir pour le peuple. Pas ni roi, pas ni temps, et c'est Babylone, un peuple qui mauvais, qui caménait. Et la Bible dit, regardez bien au verset 2, le Seigneur livra Joachim, roi de Juda, entre ses mains. Et je crois que cette déclaration a de quoi nous bousculer. La chute de Juda, c'est pas parce Babylone fort, hein, c'est la souveraineté de Dieu qui est en action ici. Parce que Dieu est en train de diriger l'histoire, même quand cela nous semble incompréhensible. Et dites-vous bien que dans le Proche-Orient ancien, si un peuple perdait, on pensait que c'est son Dieu qui avait perdu. Et donc pour les autres peuples, Juda est vaincu, donc ça signifie pour eux que Yahvé a été vaincu. Et pourtant la Bible dit ici tout le contraire. Dieu règne même quand il semble tout simplement silencieux. Peut-être qu'il y aura modulité tout. Parce que tu restes fidèle à Dieu. Peut-être qu'on se moque de toi parce que tu refuses certaines compromissions. Peut-être qu'on se moque de toi parce que tu fais confiance à Dieu et je ne peux que t'encourager à le faire dans cette année 2026. Et peut-être qu'en gros, ce qu'on est en train de te dire, la pression qui est autour de toi, mais laisse tomber, ça ne sert à rien de servir ton Dieu. Mais j'aimerais te dire que ton Dieu règne encore. Et peut-être qu'on te plaint parce que tu traverses une maladie, parce que ton couple est en difficulté, parce que ta situation professionnelle est bloquée, parce que ta foi te coûte et on a senti que Babylone raide, dit sa vie, Jésus. Et on te dit, ou encore tu as une sorte de voix qui t'influence, qui te dit, mais si Dieu était vraiment avec toi, ça n'arriverait pas. J'aimerais te dire, en 2026, ton Dieu règne encore. Vous savez, parfois, on pense que certaines choses arrivent qu'aux autres. Mais je dois vous dire qu'à 15 ans et demi, en pleine adolescence, ma vie a basculé. Un jour ordinaire comme les autres, alors que j'étais en cours, au lycée, en plein cours, On frappe à la porte de la salle de classe, on appelle mon professeur, et il sort et il revient le visage tout défait, la voix grave et presque stoïque, et il me dit simplement que je peux prendre mon sac et sortir, à 15 ans et demi, sans m'expliquer, sans que je sache pourquoi. Et j'ai appris plus tard par mon oncle qui avait du mal à me dire les choses, qui était venu me chercher, que ma mère était décédée. Et je peux vous dire que tout s'est effondré pour moi. La perte d'un soutien, la perte d'un repère, la perte d'une présence irréponsable, ma mère, irremplaçable, ma mère. Un monde nouveau était en train de s'ouvrir devant moi, mais de façon brutale. Et pourtant, un an plus tôt, j'avais donné ma vie au Seigneur. Un an plus tôt, j'étais tout content d'avoir accepté le Seigneur dans ma vie. Mais ce jour-là, j'ai découvert que la foi n'empêchait pas la douleur. Mais j'ai découvert aussi que la foi empêchait le désespoir. Alléluia. J'ai compris plus tard que même dans le manque, même dans le dénuement, Dieu règne encore. Et Dieu avait un projet pour ma vie. Parce que Dieu règne encore. Et j'aimerais te dire qu'en 2026, avec Dieu, quoi qu'il arrive, est-ce que tu veux le dire avec moi? En 2026, avec Dieu, quoi qu'il arrive. Même quand tout s'effondrera, rappelle-toi que Dieu règne. Et c'est notre première vérité que tu dois garder tout au long de ta vie. Je n'ai pas de vœux particuliers, mais mon cœur est en train de brûler afin que tu puisses te rappeler que quel que soit ce qui va t'arriver, Dieu règne. Et il attend de toi que tu te connectes à lui tout au long de cette année. Donc dans ce chapitre 1 de Daniel, nous apprenons clairement que la souveraineté de Dieu ne supprime pas l'épreuve, mais qu'elle donne un sens à l'épreuve. En 2025, plusieurs d'entre nous ont vécu des épreuves terribles qu'ils n'auraient jamais aimé vivre. Et en 2026, certains d'entre nous vivront peut-être des bouleversements qu'ils n'avaient pas choisis non plus. Des pertes, des changements, des effondrements intérieurs. Mais je peux te dire que sans Dieu, c'est difficile de comprendre tout ce qui se passe. Sans Dieu, je ne peux rien comprendre. Sans Dieu, ça n'a pas de sens. Mais avec Dieu, je suis assuré que rien n'échappe à son règne. Alléluia. Même quand tout bascule, Jésus reste Seigneur. Alors, parce que Dieu règne, même sous la pression, je tiendrai, j'avancerai fidèlement avec Jésus. Alléluia. Tu veux le dire avec moi? Amen. Alors, Daniel, c'est un jeune homme qui est un peu particulier. Il fait partie d'une élite intellectuelle et spirituelle à Juda. Quand on pense aux hommes intelligents dans la Bible, on cite souvent Moïse, on cite souvent Salomon, on cite aussi l'apôtre Paul. Mais j'aimerais te dire que Daniel n'a rien à leur envier. Daniel est formé, Daniel est cultivé, et Daniel est promis à un avenir plein d'influence. Et sa formation, en fait, on vient de lire là, il aura une formation de 3 ans à Babylone, mais en réalité, elle n'a pas commencé là. N'oublions pas que Daniel, lui, il est né sous le règne de Josias, un roi qui cherchait Dieu et qui va, parce qu'ils ont retrouvé des rouleaux de l'Écriture sainte, et un roi qui va amener un puissant réveil spirituel au sein de Juda, une génération qui était bien dévoyée. Et Josias, c'est comme une éclaircie qui va emmener le peuple à réfléchir. Et pendant des années, la parole de Dieu est remise au centre du peuple de Juda. Et on peut penser tout simplement que Daniel, il a grandi dans un foyer croyant, entouré d'un leadership fort spirituellement. Et Dieu, ce qu'on peut dire ici, c'est que Dieu préparait son serviteur. Ce n'est pas simplement, Babylone qui va faire sa formation. Il avait déjà reçu une formation. Vous voyez donc, sont pas instruits, Timon Maï, c'est la rive qui a fait. Et sans planter Jodia, c'est ça, ok? Alors j'aimerais encourager vraiment du fond de mon cœur tous les parents chrétiens ici qui s'appliquent à élever leurs enfants dans la foi, à prier pour eux, à prier avec eux, à étudier, à méditer la Bible avec eux, à veiller à être des modèles pour eux. Vous savez, petit maman, qui a gardé sa grand-mère au café, parce que ça y est, est-ce que vous savez ça? C'est sans café qui a monté. Plus qu'ils sont quatre. Mais je veux vraiment encourager les parents chrétiens qui s'y appliquent et essayer de les conseiller au mieux. Les yokatan, hein? Les yokatan, hein? Essayer de faire le maximum pour eux. En tout cas, j'aimerais te dire que tu es en train d'investir en tant que parent chrétien pour le peuple de Dieu, comme ça a été le cas des parents de Daniel. Parce qu'un beau jour, ils ont vu leur fils partir comme ça en exil. Vous imaginez? Et j'aimerais te dire, parents, persévère, persévère. Et je le dis avec, avec un réalisme, c'est que ce n'est pas facile. Mais je veux t'encourager, parents chrétiens. Donc, on l'a dit ici, Daniel va brutalement, tout va basculer pour lui brutalement. Comme c'est le cas de Joseph aussi, hein, avant lui. Daniel est arraché de son pays et il va être plongé dans une culture étrangère. Et dites-vous bien que selon toutes les estimations, en gros, il avait entre 14 et 16 ans, Daniel. Donc il était très, très, très jeune. Et Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, le traite, lui et les autres juifs, comme de véritables investissements stratégiques. En gros, il voyait l'avenir de ces personnes, il ne s'agissait pas simplement de les prendre en exil, et puis mettez yo là, et puis il fait yo faire basse colonne. Non, il a pris les meilleurs, il a pris les têtes pour en faire, des choses qui correspondent à ses désirs. Et peut-être que toi-même, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant que professionnel, parfois tu sens qu'il y a des personnes autour de toi, dans les milieux où tu es, qui veulent investir, et en quelque part, yo les prends pour faire ça, yo les, n'est-ce pas? Yo les prends pour ça. En tout cas, la Bible dit bien qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont en bonne santé, n'est-ce pas les jeunes hommes qui sont ici? Beaux, intelligents, en bonne santé et issus d'une lignée noble, d'une lignée royale. Et le roi, tout ce qu'il voit, c'est de les former pour servir son royaume. Alors j'aimerais te dire que la vie, et en 2026, tu vas le vivre encore, s'accompagne de pression. Et la formation que Daniel va vivre, il y a une dimension de pression intense. Parce qu'il va devoir apprendre une nouvelle langue. Parce qu'il va devoir avoir une nouvelle culture à intégrer avec de nouveaux schémas de pensée. Et puis aussi parce qu'on va lui donner de nouveaux noms, n'est-ce pas? Et je vous ai dit le sens des noms, n'est-ce pas, pendant la lecture. Et on cherche probablement, tout simplement, à effacer l'héritage qu'ils avaient et à remplacer leur foi et tout simplement leur dire que maintenant, ici, le fait les faire entrer dans le paganisme, dans l'idolâtrie. Et pourtant, avec tout ça, j'aimerais dire que Dieu règne encore parce qu'il n'est pas pris au dépourvu. Dieu n'est pas dépassé par cela. Donc, si parfois on veut t'utiliser au travail, si parfois, en tant qu'étudiant, voilà, il y a des hommes, des femmes non-croyants, non-croyantes, voilà, qui veulent, ils voient tout ton potentiel et ils veulent l'utiliser. Dieu n'est pas dépassé par cela. Rappelez-vous que Daniel n'avait que 14 à 16 ans. Mais précisément dans cette situation, Dieu va l'utiliser. Dieu le veut là, précisément à Babylone, pour apprendre toutes les sciences et toutes les connaissances babyloniennes, avec toute la pression de vivre loin de chez soi et de perdre ses repères. J'aimerais te dire que bien des fois, et tu peux retenir ça, la pression que tu ressens, peut-être dans une famille non chrétienne, peut-être dans ton lieu de travail, peut-être même dans ton voisinage, la pression n'est pas un accident. Elle fait partie de ta formation. Amen. Tu peux le dire à celui qui est à côté de toi. Peut-être as-tu besoin d'entendre, mais tu n'es pas obligé. Et je pense particulièrement aux jeunes chrétiens. Quand la pression est là, la tentation est grande de ne pas annoncer la couleur, n'est-ce pas? De raser les murs. Je suis chrétien, mais dans mon coin. Et d'avoir honte de l'évangile. De jouer au chrétien caméléon. Vous le connaissez celui-là? En fait, de ne pas être chrétien du tout en réalité. Si tu ne peux pas proclamer ta foi d'une manière ou d'une autre, quelle est ta foi? Et j'aimerais te dire que quand tu fais ça, lorsque tu étudies, lorsque tu es au lycée, lorsque tu es à l'université, tu risques de le faire quand tu vas travailler aussi. Et tu vas perdre une occasion de te laisser former par le Seigneur. La pression n'est pas un accident. Elle fait partie de ta formation. Alléluia. Peut-être que vous compreniez mieux. Vous savez, le monde ressemble à un océan. Voilà. Le monde ressemble à un océan. Plus on descend en profondeur, plus la pression augmente. C'est-à-dire que plus la couche d'eau qui t'entoure s'épaissit, et plus cela va entraîner une pression plus élevée sur notre corps. Et on estime que la pression s'accentue, imaginez-vous, qui fait de la plongée ici? Un peu, pas beaucoup de... Hein?
En bouteille, c'est pas pareil,
exactement. On estime que plus on descend, c'est 10 mètres, 1 bar par 10 mètres de descente. Et à 2000 mètres de profondeur, il y a 200 bars. Imagine, en fait, tout ça pour dire que sans protection, le corps humain ne peut pas résister, comment dire, il est tout simplement écrasé. Le corps humain peut supporter à peu près 1 bar 6, soit environ 70 mètres de profondeur. Donc, lorsqu'un plongeur veut descendre plus bas, il va descendre dans un submersible, alors soit une sorte de scaphandre, n'est-ce pas, mais ça reste encore dangereux, ou tout simplement un sous-marin. Parce que c'est conçu pour résister, pour aller plus profond sans être écrasé. En gros, la pression extérieure n'a pas disparu, mais à l'intérieur, c'est devenu solide. Est-ce que vous me suivez? J'aimerais te dire qu'en 2026, avec Dieu, quoi qu'il arrive, attends-toi à ce que Dieu te forme sous la pression. Il va former ton intérieur sous la pression. Et c'est notre deuxième vérité essentielle aujourd'hui, que tu dois garder toute cette année. Dieu va te former en 2026 par la pression. Parce qu'on vit tous des pressions, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient spirituelles. Et j'aimerais te dire que le monde ne peut pas faire autrement. Le monde ne peut pas faire autrement que presser. C'est la nature du monde de presser les enfants de Dieu. Mais Jésus nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et l'Écriture affirme aussi, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que celui qui est en vous te donne toute la résistance intérieure pour résister à la pression extérieure. Et le véritable enjeu de la solidité est là. Si nous ne laissons pas Christ nous former en dedans, nous finirons par céder. Mais si Christ règne en nous, alors même sous la pression, nous ne céderons pas. Alléluia. En 2026, je le répète, Dieu ne nous promet pas moins de pression, mais il nous promet sa présence. Il nous promet sa présence pour nous former là où nous sommes. Parce que Dieu règne, même sous la pression, je tiendrai et j'avancerai fidèlement avec Jésus. Amen. Alléluia. Alors, le texte nous dit aussi, dans le verset 8, verset qu'on m'a souvent répété quand j'étais jeune, Dieu décida dans son cœur de ne pas se souiller. Voilà. Et ça, c'est vraiment nécessaire pour voir si tout le monde... Daniel décida dans son cœur de ne pas se souiller. En gros, Daniel n'a pas fait la révolution. Daniel n'a pas fait un scandale. Il n'a pas fait de révolte. Il n'a pas fait de grand discours. Il n'a pas cherché à affronter qui que ce soit. Mais il a pris une décision intérieure. Daniel ne fait pas de scandale, mais a fait un choix profond. Et ça a de quoi nous faire réfléchir dans ce monde où tout passe par les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Comme si je dois exprimer, médiatiser qui je suis pour être sûr des choix que je fais. Est-ce que vous me suivez? En quelque part, il faut tellement être sûr extérieur pour être sûr de qui je suis. Non, la Bible dit qu'il décida dans son cœur de ne pas se souiller. Daniel fait totalement le contraire. C'est la crainte de Dieu qui l'intéresse. Ce n'est pas le regard des autres. Et je prie qu'en 2026, la crainte de Dieu soit là devant toi pour chacun des choix que tu as faits. Et ici, il s'agit de la nourriture, du vin, du roi qui posait un réel problème spirituel pour Daniel. D'abord parce que ce n'était pas conforme à la loi juive. Ce n'était pas cachère, comme on dit, n'est-ce pas? Dans le judaïsme, plusieurs lois déterminent quels aliments peuvent ou ne peuvent pas être consommés. Et on parle de ce qui est cachère, n'est-ce pas? Cachère, ça veut dire approprié, ça veut dire convenable. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est que cette nourriture était probablement, offerte aux idoles, comme c'était courant dans les cultes païens. En quelque sorte, manger, ça aurait été de participer à un système qui ne reconnaît pas Dieu. D'ailleurs, ils ont déjà changé leur nom, n'est-ce pas? Et boire, c'est reconnaître qu'une autorité, qu'une autre autorité, reconnaître tout simplement une autre autorité. Et la loi de Dieu était contre ces choses. J'aimerais te dire qu'en 2026, avec Dieu, quoi qu'il arrive, Dieu t'appelle à des choix courageux. C'est la troisième vérité pour nous ce matin. Mais remarquons une chose. Daniel n'est pas en train de tout refuser. Il ne joue pas aux religieux sectaires dans son coin. Il accepte l'éducation babylonienne, 3 ans de formation. Il accepte même le changement de nom. Pourquoi? Parce que ces éléments-là, ne violaient pas directement la loi de Dieu. Et je le dis encore une fois, Daniel ne cherche pas la provocation, il cherche la fidélité. Il ne cherche pas à faire la grève de la faim, il ne se rebelle pas, il va demander au chef des eunuques, chef du personnel, avec respect et sagesse, il va proposer quelque chose. Et j'aimerais dire ici que Daniel est en train de montrer une grande maturité spirituelle ici. N'oublions pas qu'il a grandi en Juda et que certainement ses parents se sont investis auprès de lui. En 2026, Dieu ne t'appelle, ne t'appelle pas à la religiosité. Il ne t'appelle pas à faire des choix parce que il y a toujours dû faire comme ça ou pas faire comme ça. Dieu t'appelle à la maturité. Daniel, lui, il connaissait les Écritures, mais surtout, il sait comment les appliquer à sa vie réelle. Et Dieu seul sait si avec tout ce que ce monde nous propose, il y a de quoi des fois se péter la tête. Mais le Seigneur est là pour nous éclairer. Il discerne là, Daniel va discerner là où la culture rentre en conflit avec la parole de Dieu. Et il a le courage de dire non précisément où ça n'est pas possible. Il a le courage de mettre des limites. Daniel sait qu'il est dans un environnement de pression. Il ne fait pas comme si, parce que je suis enfant de Dieu, je ne devrais ressentir aucune pression. Non, il sait. Mais Daniel mène une forme de réflexion éthique, biblique, pour savoir quoi accepter et quoi rejeter. Il ne va pas se mettre dans son coin pour tout rejeter. Et trop souvent, chers frères et sœurs, nous chrétiens, nous agissons comme si nous ne voulons aucune pression, qu'on s'y nous a au ciel. Ah, pas vrai? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On finit par tout rejeter et nous finissons par nous exclure du monde. Et pourtant, le monde attend que nous puissions donner notre sel. Ah, il reste la peine. Est-ce que tu veux saler le monde qui est autour de toi? Hein? Et Dieu t'appelle pour ça à des choix courageux. Il y a un temps où parfois, c'est encore le cas aujourd'hui, on disait qu'un chrétien ne doit pas faire telle ou telle étude. La philosophie, la psychologie, la sociologie, les sciences politiques, les arts, le théâtre et le cinéma. Mais j'aimerais te dire que Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui font des choix courageux dans ces domaines-là. Alléluia! Il y a un temps où on disait qu'un chrétien ne doit pas exercer tel métier. Avocat, juge, journaliste, politicien, chef d'entreprise, banquier, militaire, policier, artiste. Mais j'aimerais te dire que Dieu veut que l'on puisse donner notre sel dans chacun de ces domaines. Alléluia. On disait qu'un chrétien ne doit pas se trouver dans tel endroit, à l'université, milieu sportif, quartier difficile, les institutions politiques, les milieux culturels et médiatisés. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur veut voir ses enfants dans chacun de ces domaines. Alléluia. Je dis ça parce que parfois on peut faire des études et au travail être toujours mal à l'aise avec notre foi. Le Seigneur nous met à des places particulières, mais finalement, nous ne témoignons pas de Christ. J'aimerais te dire que la fidélité ne consiste pas à fuir la pression, mais à savoir comment y résister sans perdre son identité. Est-ce que tu m'as suivi? La fidélité ne consiste pas à fuir la pression, mais à savoir comment y résister sans perdre son identité. Donc le chrétien qui est mûr ne dit pas non à tout. Il dit avant tout oui à Jésus, oui à Dieu. Et il apprend à discerner tout le reste. Amen. Pour ne pas être, comment dire, se fermer dans une église et croire que tout va bien. Ce n'est pas la mission que Dieu nous a donnée. Et ici, comment dire, Daniel touche le cœur d'Ashpenaz, le chef des eunuques, le chef du personnel. S'il te plaît, ne m'oblige pas à manger les mains du roi. Et comme souvent dans la Bible, Dieu a passé ici des soutiens. On peut se rappeler, n'est-ce pas, de cette prostituée qui a aidé les espions dans Josué. Et Daniel propose alors une solution concrète, une solution adaptée. Donc quand il a réfléchi, il n'est pas en train de fuir. Il n'est pas en train de se dire, ouais, ma bête là, on me veut du mal ici, mon capatico, t'es au cas aller. Non, il réfléchit. Il veut être fidèle à son Dieu. Et il dit, écoute, donne-nous des légumes pendant 10 jours et puis tu vas voir. Donc, il veut être fidèle à son Dieu, il met en place les choses et en même temps, il avance par la foi. Il agit avec foi, mais aussi avec intelligence. Daniel est courageux, Daniel est humble et Daniel est aussi créatif. Je prie pour que le peuple de Dieu soit créatif. Alléluia! En 2026, Dieu t'appelle à des choix courageux. Vous savez, très tôt, alors que j'étais au lycée, nous étions 3 ou 4 chrétiens, pas plus, notamment quand j'étais en seconde. Nous avons pris une décision simple, mais courageuse. On a choisi d'ouvrir la Bible dans le lycée. On a choisi de méditer la Bible dans le lycée. Ce n'était pas légal parce que, au regard de la laïcité, c'est toujours le cas. Mais nous prions, nous partagions et nous échangions et nous parlions ouvertement de l'évangile. Alors bien sûr, on ne se mettait pas à l'entrée du lycée, mais certainement dans un coin du lycée, mais il y avait des gens qui passaient. Très tôt, le Seigneur m'a appris à faire des choix courageux. Et des années plus tard, plus de 25 ans après, des anciens camarades me reconnaissent. Et pour eux, ça ne fait aucun doute, il y a quelques semaines de ça, l'inspecteur en électricité qui est passé là, et Emmanuel était avec moi, il n'était pas du tout étonné de me voir ici et d'être partagé la parole de Dieu. Mes camarades de classe, comment dire, ce n'est pas pour mes notes, ils ne se souviennent pas de mes notes, ils ne se souviennent pas de mes performances, mais ils se souviennent simplement de ma foi. Et, comme je vous l'ai déjà dit, au lycée, sans que je ne le veuille, jusqu'à maintenant d'ailleurs, le petit surnom qu'on me donnait, c'était pasteur. Je me demande encore jusqu'à maintenant pourquoi on m'a appelé comme ça. Le Seigneur t'appelle à faire des choix courageux, même si ça te coûte, parce que même des élèves qui ne me connaissaient pas m'appelaient ainsi. Et vous savez, l'une de mes toutes premières prédications a eu lieu sur le campus universitaire de Chechen. Les présidentes, il y avait 2 années de suite, donc il y a eu une présidente, comment dire, qui s'appelait Sandra à l'époque, du groupe biblique universitaire, et puis une autre présidente, que peut-être que vous connaissez, qui s'appelait Laurie, m'ont demandé de partager l'évangile lors d'un concert et d'un moment spécial étudiant. devant tous les étudiants sur le campus de Shelcher, m'a pâté sa main péché. J'étais terrifié et je stressais énormément, mais je n'ai rien dit à Sandra et surtout pas à Lori. D'ailleurs, elle est à côté. Mais je savais que dans ces deux soirées-là, que Dieu m'appelait à faire ce pas-là. J'aimerais te dire que la fidélité à Christ commence toujours par une décision de cœur. Pas par un flou, pas par un demain, en fait, fait. Mais ici et maintenant, le Seigneur t'appelle à faire des choix courageux. Et la fidélité au Seigneur demande toujours du courage. Et en 2026, Dieu ne nous appelle pas au même combat qu'en 2025 et au même combat les uns et les autres. Mais en 2026, Dieu t'appelle à faire des choix courageux. Faire des choix concrets. Peut-être qu'il s'agit de la vérité au travail. Quand ton responsable te demande de modifier un chiffre, d'arranger un dossier et de faire porter la faute peut-être sur un collègue pour protéger l'équipe. Et ici, comme ça, tu auras peut-être un avantage, une prime ou une promotion. Dieu te demande de dire la vérité au travail. Alléluia!
Amen.
Dieu te demande de rester fidèle dans ta vie affective aussi. Quand une relation ambiguë s'installe avec un collègue, avec un ami, avec une personne rencontrée, en ligne peut-être, Dieu t'invite à couper, à te séparer. Là où peut-être tu sens ton égo flatté ou tu sens comme un vide rempli, le Seigneur t'invite à prendre des décisions radicales. Dieu t'invite à dire clairement que tu es chrétien quand une douce discussion tourne mal, tourne à la moquerie, sur la foi, sur quelque chose. Dieu t'invite à éviter ce genre de difficultés, ce genre. Et il t'invite à parler avec tact, avec amour, et à ne pas te cacher en tant que chrétien. Dire clairement que tu es chrétien. Peut-être aussi, est-ce une habitude qui t'enchaîne et tu sais que ça t'emmène pas loin, ce sont les écrans, peut-être l'alcool, peut-être la pornographie, peut-être les jeux d'argent, les achats compulsifs qui prennent le contrôle. Le Seigneur t'invite à poser une limite et à demander de l'aide. Dieu nous appelle à des choix courageux en 2026. Là où ta parole est en jeu, là où ton témoignage est en jeu, en 2026, Dieu t'appelle à des choix courageux. Parce que tu règnes même sous la pression. Alléluia. Et tu peux dire que je tiendrai et j'avancerai fidèlement avec Jésus. Amen. La fin de Daniel chapitre 1, on va dire, n'est pas une surprise. Quand des hommes et des femmes prennent position pour Dieu, marchent selon la parole de Dieu, Dieu les honore. Dieu les honore. J'aimerais te dire qu'en 2026, Dieu veut honorer ta fidélité. C'est la quatrième vérité essentielle que tu dois garder toute cette année. Alors, c'est vrai que Daniel, il a été au régime sec, on va dire, je ne sais pas comment dire, légumes et eau, et que certainement, quand tu manges des légumes et de l'eau, alors bien sûr, il faut des protéines, on est d'accord, il faut les prendre, certainement des protéines végétales, mais ça produit de bons résultats. Et puis, Daniel et ses amis n'étaient pas des tirs au flanc, n'est-ce pas? Ils n'attendaient pas le dernier jour pour réviser, avant les examens, n'est-ce pas? Ils prenaient le temps d'étudier, de travailler. Vous savez, quand on attend le dernier jour, on prie tellement, hein, n'est-ce pas? Non, ils ont pris le temps d'étudier, de travailler et ils ont appris. Mais le texte insiste sur quelque chose de plus profond. Dieu leur a donné la connaissance et l'intelligence. Et leur réussite ne s'explique pas simplement par leur discipline, mais par la bonté active de Dieu sur leur vie qui accompagne la fidélité. Dieu les a honorés parce qu'ils ont choisi d'être fidèles. Et Dieu ici, il ne fait pas de gros bruit, n'est-ce pas? Il agit calmement, sans bruit, mais de manière décisive. Et regardez bien l'ironie de ce passage. Au début du chapitre, nous voyons des jeunes gens qui sont kidnappés, humiliés, car le royaume a été tout simplement vaincu. Mais à la fin, c'est ces mêmes captifs-là, c'est ces mêmes personnes qui sont emprisonnées, qui se tiennent devant le roi au sommet de, comment dire, de la hiérarchie de l'administration impériale. En gros, les perdants deviennent les sages du royaume. Vous imaginez ? Les exilés deviennent les conseillers royaux. Ceux qui ont accepté la pression, c'est eux qui auront une grande influence sur leur pays. Alléluia. Merci Seigneur pour la pression. Et tout ça, dites-vous bien que ce n'est pas pour flatter leur ego, mais c'est pour servir un projet qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Tu n'imagines pas que la pression que tu es en train de subir, ce que le Seigneur veut faire, non seulement à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur de toi. Et à travers Daniel et ses amis, Dieu va toucher Babylone elle-même. La sagesse qu'ils vont développer va protéger des incroyants. Alléluia! Il va protéger les dirigeants. Il va révéler, on le voit dans Daniel chapitre 2, la vérité à Nabuchodonosor. Et cette sagesse, comment dire, c'est Daniel et ses amis vont l'exprimer et ça va devenir un témoignage du Dieu vivant. Ça va transformer des mentalités au cœur même du lieu de la pression, à savoir Babylone. Tu n'imagines pas ce que le Seigneur peut faire à travers toi en 2026 et dis-toi bien qu'il veut honorer ta fidélité. Il veut honorer ta persévérance en 2026. Ici, la fidélité de quelques-uns devient une bénédiction pour beaucoup. Alors en 2026, avec Dieu, quoi qu'il arrive, Dieu va honorer ta fidélité que tu maintiens peut-être depuis des années. Ce n'est pas à dire qu'on va commencer, peut-être. Mais si tu dois commencer, commence maintenant aussi. Mais peut-être que ça fait des années que tu es fidèle, que tu t'accroches et que tu fais le mieux possible ton travail, que ce soit à l'église, que ce soit en tant que mère, en tant que père de famille, que ce soit dans ton travail. Dieu veut honorer ta fidélité que tu maintiens depuis des années. En 2026, Dieu utilisera ton service fidèle, ta posture fidèle, ton attitude fidèle pour bénir autour de toi. Imaginez que quelqu'un qui va voir son patron, et peut-être que c'est ce que tu veux faire, peut-être, je ne sais pas, en 2026, lui dit, cher patron, je sais que je fais mal mon boulot, mais si vous me donnez une promotion, je ferai mieux. Hein? Cela n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Parce que ça ne fonctionne pas comme ça, la fidélité. Et pourtant, beaucoup de chrétiens fonctionnent ainsi avec Dieu. Ils demandent à Dieu et ils donnent à Dieu un service entre deux. Ils vont comme ça. Mais pourtant, ils proclament la bénédiction. Vous voyez pourquoi je dis j'ai un problème avec soit les vœux ou encore, bon, les vœux, c'est sûr, c'est l'expression du meilleur pour l'autre. Mais parfois, on veut proclamer toutes sortes de choses sur les vies. Je proclame que tu as beaucoup d'argent, les vies. Et donc, on veut proclamer toutes sortes de choses, mais on donne à Dieu quelque chose entre deux. Tu n'es pas fidèle. On fait comme cet employé qui demande une promotion pour qu'il puisse bien travailler. Cela n'a aucun sens. J'aimerais te dire que Dieu ne cherche pas des personnes brillantes occasionnellement. Il ne cherche pas des étoiles filantes. Il ne cherche pas des chrétiens ouais ou pas ouais. Dieu cherche des personnes fidèles, il cherche des personnes fiables, qu'il honore dans sa souveraine grâce. Et peut-être que ça fait longtemps que tu es fidèle et tu attends que Dieu puisse t'honorer. Il le fera en son temps. Alléluia. Dieu se soucie davantage de la fidélité qui dure dans le temps que des résultats immédiats. Si un mari est fidèle à 85%, il n'est pas fidèle. La fidélité partielle à Christ n'est pas une fidélité du tout. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai senti les visages des sœurs. Hein? Daniel est resté fidèle quand c'était difficile. Et ses amis sont restés fidèles quand c'était aussi dangereux. Et on le verra tout au long de ce mois, parce qu'ils ont vécu sans compromis. Et Dieu a honoré cette fidélité dans le temps. En 2026, Dieu ne nous appelle pas à impressionner. Il nous appelle à persévérer. Alléluia! Il ne nous appelle pas à briller un instant, mais à marcher longtemps. Alléluia! Il ne nous appelle pas à négocier avec le monde, mais à demeurer attaché à Christ. Et la promesse est claire dans Galates chapitre 6, le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable. Avec Jésus, ta fidélité n'est jamais perdue. Elle va porter du fruit en son temps. Parfois, ce fruit sera visible, parfois, ce fruit sera caché, mais ce sera le fruit durable dans le temps, dans le nom de Jésus. Ceux qui honorent Dieu, chers frères et sœurs, ce n'est pas l'éclat momentané. Vous savez, des fois, on peut tellement être impressionné, mais c'est une vie qui est fidèle à Jésus-Christ dans les plus petites choses au quotidien. Alléluia. Amen. Alors, tout comme la Bible ne parle pas de nouvelle année ni de nouveau mois, au sens M-O-I, de nouvelle version de soi-même, je ne sais pas comment dire. Mais la Bible parle de nouvelle naissance. Alléluia! Et ici, dans Daniel 1, le texte que nous venons de voir, Dieu ne nous raconte pas l'histoire de personnes exceptionnelles, mais simplement d'enfants de Dieu ordinaires attachés à un Dieu qui, lui, est extraordinaire. Alors, 2026 ne sera peut-être pas différente, parce que le chiffre change. Mais tout comme la Bible, je vous l'ai dit, ne parle pas de nouvelle année ni d'un nouveau mois, 2026 sera différente pour toi et pour moi parce que Dieu lui-même ne change pas. Et c'est tout ce que nous avons parlé, échangé là, ce matin. Dieu règne, n'est-ce pas? Et Dieu règne encore. Et Dieu veut te former sous la pression. Et Dieu t'appelle à faire des choix courageux. Et Dieu va t'honorer en son temps, dans ta fidélité. Amen. J'aimerais simplement terminer et faire un appel pour toi ce matin, qui a été interpellé d'une manière ou d'une autre à travers ce message. Peut-être que le Seigneur t'a interpellé parce que parfois tu oublies que Dieu m'aime. Parfois tu oublies le sens de la pression que tu ressens. Parfois tu oublies aussi que le Seigneur t'invite à te positionner de façon courageuse. Et parfois aussi tu es découragé parce que tu ne vois rien alors que Dieu dit qu'il est là et qu'il va t'honorer d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ce message te parle ce matin. En tout cas, j'ai voulu, par la grâce de Dieu, rappeler trois vérités pour savoir comment vivre cette année 2026. Et j'aimerais prier tout particulièrement pour toi qui a été touché par une chose ou par une autre dans ce message. Et t'inviter à prendre une décision avec le Seigneur. Te dire que cette année, tu ne vas pas simplement rester assis et attendre que les choses se passent. Tu ne vas pas rester assis et simplement subir les événements et les situations parce que oui, des choses vont s'effondrer. Oui, la pression viendra, mais il n'empêche que tu règnes. Alors, tu peux simplement te lever, tu vas rester à ta place et on va prier pour toi et on va t'accompagner dans la prière et proclamer sur ta vie que tu règnes. Proclamer sur ta vie que Dieu va continuer à te façonner, à te transformer sous la pression. Proclamer sur ta vie que Dieu sera là encore pour t'inviter à faire le pas supplémentaire avec lui. Quels sont les choix courageux que tu as à faire là, cette début d'année? Quels sont les endroits où tu dois signaler clairement que tu es enfant de Dieu? Quels sont les endroits où tu sens qu'il y a comme une pression qui est là et que si tu ne fais rien, tu vas continuer à couler. Le Seigneur te dit, je fais des choix courageux. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Il n'a pas bousculé les uns et les autres, il a pris une décision personnel, intime, profond, et qui vont changer extraordinairement jusqu'à ce qu'il se trouve à de grandes responsabilités. Lui, le kidnappé, lui, l'exilé. Peut-être que tu te sens kidnappé, et le Seigneur veut changer ta mentalité en ce matin. Peut-être que tu te sens exilé là où tu es parce que l'on ne te comprend pas. Alors, le Seigneur te dit en ce matin, fais des choix courageux et je vais te nommer. Alléluia. Alléluia. Prions, chers frères.